Georges Malbruno est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Georges, vous êtes grand reporter au Figaro et vous êtes de retour de Téhéran. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez publié cette semaine, à votre retour, une vidéo sur les réseaux sociaux qui pour moi, est la vidéo la plus marquante que j'ai vue depuis le début de 2023. Et franchement, je n'exagère pas. Vous avez publié tout bêtement, j'imagine, avec votre téléphone portable, un bar à Téhéran.
Oui, oui.
Où toutes les femmes sont dévoilées.
C'est-à-dire,
il n'y a pas un foulard. Et alors, j'ai regardé ça avec des amis, j'ai montré à des stagiaires à la radio, je leur ai dit, tu vois ça, tu peux avoir des Iraniennes qui se rencontrent comme ça, mais c'est à Los Angeles. C'est impossible que ça soit à Téhéran. Et aujourd'hui, ça se passe à Téhéran. Et vous avez souligné votre vidéo, vous avez titré votre vidéo, et c'est ça qui m'a donné envie de vous appeler et qui fait qu'on a le plaisir de vous avoir. Vous avez mis « Les femmes ont gagné ». Je ne sais pas combien de temps, mais pour l'instant, elles ont gagné. Je vous cède la parole pour nous dire ce que vous avez vu, parce que je trouve ça incroyable.
Oui, alors c'est l'image, peut-être moi, qui m'a marqué le plus aussi au cours de mon séjour à Téhéran, où je vais quand même depuis 25 ans, 26 ans. Donc voilà, effectivement, alors après, il faut relativiser, mais effectivement, à Téhéran, il y a environ 20% de femmes aujourd'hui qui ne portent plus le voile. Et effectivement, il y a dans des restaurants, dans des bars branchés de la ville, des filles qui viennent, comme dans ce bar branché de la rue Iranchar, un quartier un peu d'artistes, un quartier central de Téhéran, qui viennent sans foulard sur la tête, sans manteau, comme voilà, c'est une scène banale qui rappelle Paris, Beyrouth,
la rue Montorgueil, Saint-Germain,
etc. Voilà. Alors simplement, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette scène, ces images fortes de femmes qui ont réussi à arracher ce droit. Alors ensuite, ce qui est intéressant, ce qui m'a beaucoup intéressé, j'ai fait deux pages dans le Figaro, mais à travers cette image, elle montre effectivement que les femmes ont gagné sur ce plan-là, mais que leur victoire est fragile. Elle est fragile pourquoi ? Parce que la police religieuse, qui a été plus ou moins démantelée, qu'on ne voit pratiquement plus dans les rues, elle est venue voir, par exemple, le patron de ce bar, qui m'a raconté la scène, qui m'a autorisé à filmer, et il m'a dit « Oui, j'ai été fermé deux jours avant votre arrivée, pendant deux jours. » Voilà, ensuite j'ai été rouvert, et la police religieuse lui a dit « Bon, tu vas fermer ton établissement pendant deux jours, c'était pas la première fois, les filles qui viennent sans foulard, c'est pas grave, c'est hors de contrôle de toute façon, c'est ça qui est intéressant, mais en revanche, on veut que tes serveuses portent le voile. » Pourquoi il y a cette différence ? Parce que, effectivement, le pouvoir a compris qu'il aurait beaucoup de mal à réimposer un port du voile obligatoire à toutes celles aujourd'hui qui ne sont pas majoritaires, mais en tout cas notamment les jeunes qui ont envie de ne plus porter le voile, mais il a aussi envie, et il doit le faire, de faire plaisir à sa frange radicale qui est mécontente que justement la République islamique ait cédé sur un des piliers de ce pouvoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez cette espèce de pas de deux. On autorise les filles, on ne les autorise pas, mais on ne dit rien, on dit c'est hors de contrôle avec les filles dans la rue qui ne portent pas le voile. En revanche, dans les bars, les serveuses doivent porter le voile. Dans les administrations, les patrons des administrations, les patrons des banques ont reçu l'ordre justement du pouvoir de faire la police. Le pouvoir, et c'est là où il faut être fin comme on doit l'être quand on juge l'Iran, c'est que le pouvoir iranien effectivement est solide, il ne va pas tomber. Il n'y a plus de contestation aujourd'hui, elle repartira peut-être tôt ou tard, mais les étudiants sont démoralisés, j'en ai vu, j'en ai cité. Il y a un marasme économique qui est très profond et qui fait qu'effectivement la prochaine manifestation pourrait être économique, mais on n'en sait rien. Mais donc il est fort, il est solide, il a réprimé et les étudiants sont pour l'instant démoralisés. Donc il n'y a plus de contestation, il ne faut pas écouter. Moi, j'étais à une conférence ce matin d'un chercheur à Londres, iranien, enfin, qui n'est pas chercheur mais qui est militant, qui nous vend encore ce que la diaspora a vendu pendant des mois en disant que le régime allait tomber, qu'il y a des manifestations. Non. En revanche, le régime a perdu sur cet aspect-là, et il sait qu'il ne peut plus revenir en arrière parce que ça voudrait dire des scènes de violence, etc. Il gère cette situation avec, je dirais, effectivement, des déclarations qui disent la reconnaissance faciale va remplacer la police religieuse, on va recenser les filles qui, dans la rue ou au volant de leur voiture, ne conduisent sans voile, on va les avertir, effectivement, ils envoient 1, 2, 3 avertissements, mais je crois que derrière ces avertissements, c'est un peu de la, comment dirais-je, des menaces verbales, parce que, encore une fois, comme je vous dis, ils ont pris conscience que y avait eu un conflit de génération, il y avait une situation de fait qui a été créée. Au sein de du pouvoir iranien, y compris, moi, j'ai vu des mollahs, j'ai vu des gardiens de la révolution qui m'ont dit, bon, il faut qu'on comprenne qu'il y a un problème de génération, on ne peut pas forcer sur le voile, etc. Ça va être compliqué
mais
parce que le pouvoir...
Mais ça s'appelle mettre un genou à terre pour un mollah. Donc,
non,
en vous écoutant, attendez,
oui, mais,
je vais vous céder la parole,
oui,
Georges, tout de suite.
Le pouvoir iranien, il met des genoux à terre tous les... Je veux dire, quand ils ont signé l'accord nucléaire de 2015, l'ayatollah Khamenei a dit je fais preuve de flexibilité héroïque. Vous savez, les gens qui s'intéressent à l'Iran savent très bien qu'il y a la règle, par exemple, ce qui peut s'appliquer pour le voile et pourrait ressembler à ce qui s'applique aux paraboles. Les paraboles en Iran sont interdites, partout vous en avez. Et donc, il faut espérer qu'on arrive un petit peu au même niveau de double jeu, mais c'est toute la finesse de ce pays et de cette situation qui n'est jamais blanche ou noire.
Deux choses me frappent en ayant regardé ce que vous avez fait et en vous écoutant ce soir. La première, moi c'est pas tellement le foulard des serveuses, on est à Téhéran, encore,
oui,
j'ai
oui,
envie de dire
ben...
pour eux, hein, pas pour moi, mais pour eux, ouais. Encore heureux que la serveuse elle a un foulard. Mais il y a autre chose qui m'étonne que vous n'ayez pas souligné, parce que je suis certain que vous l'avez vu. C'est que, qu'on enlève le foulard quand on est dans un lieu clos, même s'il est public, mais il est clos, mais sur votre vidéo, Georges Malbruno, la terrasse, sur la terrasse, les filles
oui,
dans la rue,
dis.
Elles sont
c'est
sans foulard. C'est plus
oui,
pareil,
c'est
plus la même histoire. Et donc, voilà ma question. La perestroïka a commencé comme ça, et du jour au lendemain, le mur est tombé. C'est-à-dire qu'au début, Gorbatchev a dit, on va accepter, et tout d'un coup le mur tombe parce que
non,
face à cette jeunesse-là, c'est dur de tenir.
On n'est pas dans la situation de l'Union soviétique. Les Iraniens, le pouvoir iranien a compris tout cela et ils vont mettre. C'est pas un genou à terre qui mène, ils font attention mais ils ne lâcheront pas parce qu'ils savent que s'ils lâchent ils sont emportés. Mais en tout cas aujourd'hui ceux qui ont lâché, c'est effectivement le régime tactiquement a reculé et il va probablement essayer de revenir sur ça, mais il aura du mal. Il aura du mal parce que ça fait quand même 20% ou 15% d'Iraniens à Téhéran, ça fait beaucoup de mal. Et il a surtout envie de gérer cette situation qui, si elle est calme, c'est un calme de surface parce que le feu couve encore sous la cendre, les jeunes sont évidemment mécontents, mais je suis allé près des universités, j'ai vu des étudiantes m'ont dit on est démoralisés, on a été réprimés, il y a une intensification de la surveillance, ils ont pratiquement plus de marge de manœuvre. Et ce que m'a dit une étudiante, elle m'a dit la plupart des jeunes, quand ils réussissent après, ils songent à partir. Donc non, il ne faut pas en tirer de conséquences, il ne faut pas dire non, le régime va tomber. Il ne faut surtout pas faire ce qui a été fait, de prendre ses désirs pour des réalités. Ne pas écouter. L'autre élément important, moi, qui m'a frappé, c'est le discrédit de la diaspora. Le discrédit de la diaspora auprès des Iraniens qui sont dans la rue même, qui nous ont dit mais ces gens-là ne nous représentent pas, ils profitent de nos malheurs pour avancer, pour espérer revenir chez nous et prendre des places, et deuxièmement ils ne connaissent pas le pays. Troisièmement, un type comme Reza Pahlavi qui va en Israël au moment où Netanyahou a les pires problèmes, qui va se recueillir au mur des lamentations avec sa kippa mais qui ne met pas un pied sur l'esplanade des mosquées, il oublie quand même que les Iraniens sont musulmans, même s'ils sont pratiquants. Donc si vous voulez, ça c'est très important. Donc, on est un peu intoxiqué par la diaspora à l'étranger qui nous a vendu, le régime est sur le point de tomber, les femmes, la révolution. Non, ce n'est pas une révolution pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas d'effet de masse. Le jour où il y aura une jonction entre les étudiants en colère, même si aujourd'hui la colère, elle est larvée et sous-jacente, jonction entre ces gens-là et jonction entre les classes défavorisées qui n'en peuvent plus de trimer parce qu'économiquement la situation est mauvaise, là il y aura un gros risque pour le régime. Mais on en est loin, parce que les Iraniens que j'ai interrogés, le banquier, le chauffeur de taxi, l'industriel, le commerçant m'a dit, moi, je soutiens. Ma femme n'a plus envie de porter le voile, mais je ne vais pas manifester dans la rue parce que j'ai peur pour le lendemain, parce que j'ai vu ce qui s'était passé à côté, et puis parce que je ne sais pas de quoi demain est formé. Et donc, je ne prends pas de risque. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout ça qui compose ce tableau, mais du point de vue, effectivement, de la jeunesse, ça fait quand même plaisir à voir de voir des jeunes qui sont ben, comme à Paris, comme à Tel Aviv, comme à Beyrouth, voilà, qui vivent une jeunesse. Mais c'est souvent des éléments très jeunes, hein, souvent des éléments jeunes, mais il n'y a pas
de raison de plus pour dire que ça va dans mon sens. Mais moi, je n'ai pas dit le régime va tomber, hein. Très très loin de ça. D'ailleurs, je me souviens compris de ce que vous avez dit sur cette antenne. Les Israéliens eux-mêmes disent non. Donc,
les services
de renseignement disent prenez pas vos désirs pour des réalités.
Prennent pas leurs désirs pour des réalités. Voilà,
c'est comme justement, le même Ali Khamenei, il est allé dire à des gens qui l'écoutaient regardez, c'est les Israéliens eux-mêmes qui disent qu'ils vont bientôt mourir. Donc, oui, c'est sûr, on peut raconter tout et n'importe quoi. Et Dieu sait que la situation en Israël n'est pas brillante, loin de là. Je voudrais vous poser une dernière question, Georges Malbruno. C'est justement sur le côté fuite en avant des Iraniens. Alors, comment présenter les choses ? Ça fait quand même près d'un mois que les Israéliens disent ils vont faire une... j'ai le droit d'être un peu familier, ils vont faire une connerie. Ils poussent trop, on voit des attaques dans le détroit d'Ormuz, on voit des choses, et les Israéliens disent ça va mal finir cette histoire. Et pour le coup, alors là aussi c'est un jeu qu'on connaît très bien, qui n'est pas nouveau, qui est très oriental, mais... pour le coup, est-ce que c'est le moment où vous allez nous dire, Georges Malbruno, vous avez raison, il y a un risque de fuite en avant, il y a un risque peut-être même de la grosse tête, simplement. Là, parce que, par exemple, Gallant, hier, il a dit... Gallant,
je finis la phrase.
Chez les Iraniens. Ou chez les deux, alors, parce que les joueurs... Oui, exactement. Ou alors les Israéliens attaquent, et voilà, il ne fallait pas attaquer, si vous voulez. Mais moi, je parlais des Iraniens. La fuite en avant, c'était
non.
Ça, c'était...
Non, je ne pense pas.
Ah ouais,
non.
C'est ma question.
L'Iran s'est réconcilié avec l'Arabie Saoudite et dans une vaste réconciliation avec l'Égypte, s'est réconcilié avec Bahreïn. Comme ça, effectivement, a privé Israël d'une carte, mais je ne vois pas l'Iran aller... Non, l'Iran est affaibli intérieurement, puissant extérieurement, mais je ne vois pas l'Iran aller porter le fer face à Israël, en Israël contre Israël. Non, je ne crois pas. Non, l'Iran, vous savez, c'est une... Ils sont effectivement... même si le pouvoir aujourd'hui ultra-conservateur a sous-estimé le mécontentement interne, a été maladroit, ils sont dans une démarche de retour, c'est ce que je vous disais depuis trois ans, retour à la pureté idéologique et révolutionnaire de 1979. Bon, c'est une bataille perdue d'avance, mais bon, c'est comme ça. Khamenei pense que, en vue de sa succession, il faut que le régime, que la population revienne à ce qu'elle était en 79, 80, 80. Bon, là, il se plante parce que la population, justement, ne veut pas de ça, mais c'est un régime aussi qui, même s'il a perdu quand même un peu, parfois on peut penser qu'il a perdu une once de rationalité, mais pas tant que ça, parce qu'ils ont renoué avec l'Arabie Saoudite, ils ont renoué avec les pays arabes, donc ils ont apaisé ce front-là. Israël aura du mal maintenant à obtenir un appui ou un aval saoudien pour aller frapper l'Iran. La situation économique est désastreuse en Iran. La logique voudrait que pour sortir de là, ils renouent avec l'accord nucléaire. Ils n'en veulent pas parce que, pour différentes raisons, parce qu'il y a des intérêts privés qui font que ils n'ont pas intérêt. D'autre part, ils sont à 2 ans de la levée des premières interdictions, etc. Mais je pense qu'ils ont probablement envie quand même d'arriver à bricoler un accord qui leur permettrait d'exporter du pétrole en échange d'un gel sur le nucléaire. Ils pensent aussi que, effectivement, leur rapprochement avec l'Arabie a neutralisé Israël, que leur, comment dirais-je, leur, euh, leur fréquentation et leur concubinage avec la Russie leur donnent la sécurité russe, le pétrole chinois que les Chinois leur achètent leur donne une certaine stabilité.
Un peu d'air.
Sauf que, encore une fois, la situation économique est désastreuse. Et donc, moi, ce qu'on m'a dit, plutôt chez les Iraniens que chez les diplomates, c'est que la menace, elle est plus économique qu'aujourd'hui qu'estudiantine. Voilà, parce que les étudiants, ils sont down parce que ils ont été réprimés et que c'est très difficile pour eux de tenir face à un régime qui a un système sécuritaire qui est très efficace et qui est tentaculaire. Donc voilà, donc c'est très difficile de faire des prévisions, mais c'est ce que j'ai mis dans mon papier. Tout a changé, mais rien n'a changé, parce que tout a changé, c'est l'image dont on parle, et rien n'a changé, parce qu'il y a toujours un régime qui est là, solide, mais qui, tactiquement, a compris quand même qu'il devait
essayer de lâcher un peu de lest.
Lâcher un peu de lest, quoi, sur le voile. Voilà, après, il va pas, c'est que 15-20% de la population, mais c'est important, c'est symbolique, et ça donne une bouffée d'espoir à plein de gens, mais il y a toujours une population, même si la contestation a été étouffée, qui est très mécontente, c'est sûr, c'est évident, c'est très mécontent, et donc après, comment est-ce que le pouvoir peut gérer ça il gère ça par la force, parce que politiquement, il n'offre rien, et il faudrait qu'économiquement, la situation se redresse, et comment est-ce que le rapprochement avec l'Arabie leur permet d'entrevoir peut-être des investissements saoudiens ou du Golfe en Iran, mais ça va prendre du temps et c'est encore pas c'est loin d'être joué, parce que l'Iran est soumis à des sanctions et que les banques saoudiennes ne peuvent pas financer des projets en Iran facilement. Donc voilà, mais il y a à la fois une nouvelle situation et puis il faut rester prudent dans l'analyse.
Georges Malbruno, merci, c'est un régal de vous entendre nous raconter ce que vous avez vu sur place à Téhéran et qu'on peut lire dans Le Figaro. J'imagine que ça sera disponible encore quelques jours sur lefigaro.fr.
Sur le site, exactement. Hein,
sur lefigaro.fr, on va vous lire avec profit. Merci à vous d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir Georges Malbruno.
Merci, bonsoir.